Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Timothée Mémon.
C'est reparti pour l'Intégral Sport. On va retourner au Stadium dans quelques instants où Toulouse mène 1-0 face à l'OGC Nice. Avant cela, il y a de la moto GP cet après-midi avec sur le Grand Prix de Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Arnaud Souk est là pour nous en parler. Arnaud, le départ est imminent. Tu peux peut-être nous rappeler la première ligne et la deuxième ligne.
Absolument. Bonjour Timothée. Bonjour à toutes et à tous. C'est un Français qui partira en tête. Johan Zarco devant Maverick Vinales et Jack Miller. Deuxième ligne avec un autre Français, Quartararo, devant Pecco Bagnaia et devant l'Espagnol Alex Espargaro. La donnée est assez simple aujourd'hui. Zarco peut-il tenir jusqu'au bout? Peut-il tenir l'intégralité de ses 20 tours du Grand Prix de Silverstone et une quarantaine de minutes pour s'imposer pour la première fois de sa carrière en MotoGP? La réponse dans quelques minutes. L'autre donnée importante à prendre en compte, évidemment, c'est Fabio Quartararo. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va encore reprendre un petit peu d'avance à Espargaro au classement général du championnat du monde? On rappelle que le champion du monde en titre est leader mais n'a plus que 21 points d'avance sur son concurrent espagnol. Voilà un petit peu les enjeux, on va dire, de ce Grand Prix qui va se dérouler plein soleil dans le centre de l'Angleterre, Silverstone, quelque part entre Londres et Birmingham.
Alors ce qui va se passer également, c'est que Quartararo va devoir respecter un allongement de sa distance sur le premier tour.
On peut appeler ça un long lap, c'est le nom de la pénalité, alors que là c'est parti pour le warm-up, le tour de chauffe sur ce circuit de Silverstone. Effectivement un long lap puisque il avait commis, selon les juges, selon les commissaires, une faute lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il a donc été sanctionné. Je vous rappelle le principe de ce long lap qui devrait lui faire perdre quelques secondes lors du virage numéro 14 de ce Grand Prix de Silverstone. Au lieu de prendre à la corde, lui sera dévié à l'extérieur du virage et devra suivre un chemin précisément balisé par des lignes qui vont donc lui faire perdre quelques secondes. Il s'élance déjà en quatrième position quand on sait quand même que cette année notre ami Quartararo a construit ses succès dans les tout premiers tours en étant rapidement en tête dans les Grands Prix. C'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour le Niçois, mais on va voir ce que ça donne dans quelques instants.
C'est curieux en tout cas cette pénalité, plutôt que de le reculer par exemple sur la ligne de départ, de lui faire perdre 2-3 oui. places, on décide de faire ce long lap. Donc.
Et ce qui est encore plus curieux, c'est que l'ensemble du paddock se dit que voilà, c'est peut-être une pénalité un petit peu dure qui a été infligé à Fabio Quartararo et pourtant eh bien les juges n'ont pas souhaité revenir dessus, donc voilà.
En tout cas, on manque d'eau en France, mais c'est le cas aussi en Angleterre. J'ai rarement vu la campagne anglaise aussi jaune plutôt que verte.
Oui, oui.
On parlait de l'enjeu quant au classement. Il va rester combien de grands prix après celui-là, puisque Quartararo a quasiment un Grand Prix d'avance, 21 points contre 25 pour une victoire en Grand Prix.
C'est le 12e Grand Prix de la saison, il en reste 8 derrière. On rappelle donc une victoire, c'est 25 points dans un Grand Prix. Tu le disais, il a quasiment donc une victoire d'avance, sauf qu'il avait même plus que ça. Il avait 34 points après sa victoire au Grand Prix d'Allemagne à la mi-juin. Voilà, on lui donnait à ce moment-là, les statistiques lui donnaient à ce moment-là 85% de chance d'être sacré champion du monde, de se succéder à lui-même donc, sauf qu'entre-temps, il y a eu cette chute et cet abandon, notamment au Grand Prix des Pays-Bas, qui ont un petit peu réduit, on va dire, son avance. 41 000 spectateurs tout autour de Silverstone dans les gradins pour assister donc à ce 12e Grand Prix de la saison qui va s'élancer dans quelques instants. Je vous rappelle que donc c'est Johan Zarco qui va s'élancer devant Maverick Vinales et Jack Miller. Voilà pour la première ligne. Quartararo, Bagnaia, Espargaro en deuxième ligne et une troisième ligne avec des Italiens, notamment Bezzecchi, Bastianini et l'Espagnol. espagnol Jorge Martin.
Regarde un tout petit peu, Arnaud, parce qu'on a les deux écrans devant nous pour ne rien vous cacher. Et on prend un petit peu de retard à Toulouse. Il y avait 2 minutes de temps additionnel.
Un bonheur pour nous, ça, Timothée.
J'ai envie de voir le long lap, en fait. Je suis très curieux de cette histoire de long lap de Quartararo, puisque le coup d'envoi du Grand Prix va être le coup d'envoi. Le départ du Grand Prix des formations professionnelles va être donné dans quelques secondes.
On va voir les 10 feux rouges s'afficher dans quelques instants. Ils vont s'éteindre juste après cela. Et c'est parti. On rappelle donc Johan Zarco qui est en pole position. 20 tours de circuit à couvrir. Et c'est bien parti pour l'instant pour Johan Zarco, puisqu'il a réussi à garder sa première place à l'issue donc de ce premier virage. Johan Zarco qui réalise un super début de Grand Prix sur sa moto. Pour l'instant, il a même pris un petit peu d'avance sur la concurrence. C'est une très très bonne nouvelle pour le pilote cadois pour l'instant.
Je suis en train de compter les virages, là on en est à 6.
Alors va-t-il réaliser donc ce long lap dans le premier tour ou dans le deuxième ou dans le troisième? Il a le choix en fait de le faire dans l'un des trois premiers tours. Notre ami Fabio Quartararo, donc on va voir ce que cela donne dans quelques instants. Il a pris un bon départ, hein, Fabio Quartararo, puisque pour l'instant il est deuxième devant Miller et Bagnaia. On a donc deux Français aux avant-postes dans ce Grand Prix. Il a tout intérêt, j'aurais envie de te dire, de le prendre tout de suite, hein, puisqu'il ne va pas trop être embêté en deuxième position par les questions de trajectoire. En tout cas, ça se passe toujours très très bien pour Johan Zarco donc, et pour Fabio Quartararo, qui sont toujours tous les deux en tête de ce Grand Prix. Mais voilà, il ne l'aura pas pris tout de suite, Fabio Quartararo, ce long lap. Donc un premier tour à l'issue duquel Zarco devance Quartararo et Jack Miller, l'Australien, en troisième position.
Les Français 1 et 2 dans ce Grand Prix. On suit ça avec toi, Arnaud Souk. On retourne au Stadium de Toulouse, Paul Lafitte, pour la seconde période qui va démarrer dans une toute petite seconde.
Oui, dans une poignée de secondes, Timothée, avec ce score de 1-0 en faveur des Toulousains qui vont effectuer la remise en jeu, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Il n'y a pas pour l'instant de changement apparent, en tout cas de part et d'autre, avec des Niçois qui vont repartir évidemment à l'abordage pour tenter de revenir au score, pourquoi pas dans un premier temps. Voilà, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donné avec Branko van den Bommel qui a délivré une superbe passe décisive pour Dalinga pour le 1-0 qui touche donc son premier ballon. Avantage donc pour l'instant donc au TFC, et Nice qui essaie bien sûr de mettre le pied sur ce ballon. Un petit peu de cafouillage dans le rond central, et finalement les Toulousains qui récupèrent encore une fois ce ballon avec Isiaga Sylla, lui l'un des Toulousains qui a touché le plus de ballons en première mi-temps, alors qu'il y a un blessé côté niçois. Peut-être, Timothée, l'occasion de tourner avant de revenir ici au Stadium de Toulouse.
Peut-être tourner très rapidement vers MotoGP avec toi, Arnaud Souk, pour ce fameux long lap. On l'a teasé, maintenant on est obligé de le faire vivre, hein.
On nous l'annonce, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Encore une fois, Fabio Quartararo a seulement perdre en fait quelques petites secondes, mais tu vas comprendre, tu vas voir. Moi, je pense que c'est plutôt bien expliqué quand je te dis on est obligé de prendre un virage à l'extérieur avec des lignes et passer entre des lignes de manière très précise. Il faut savoir que Fabio Quartararo s'est, on va dire, entraîné à prendre cette fameuse déviation, voilà, de quelques mètres et donc de quelques secondes lors des essais libres, notamment quand il a raté un petit peu un tour, quand il sentait qu'il n'allait pas être très très performant. Et bien justement, il profitait de l'occasion pour se rallonger donc au virage numéro 14 et donc tenter de travailler cette trajectoire. Finalement, c'est l'un des virages les plus longs, peut-être même le plus long du circuit, donc ça ne va pas forcément lui faire perdre énormément de temps. On parlait de 5-10 secondes, voilà, même ses adversaires disent, bon, si c'est 2 ou 3 secondes, c'est le grand maximum pour Fabio Quartararo, mais qui n'a toujours pas donc pris ce long lap, qui devrait le prendre normalement si les indications que l'on a sur notre écran sont bonnes dans quelques instants. En tout cas, Johan Zarco, l'autre Français qui est toujours en tête, et vraiment les deux Français, les deux Azuréens qui réalisent un super début de Grand Prix. On va peut-être voir Fabio Quartararo aller prendre ce long lap. Non, pourtant il me semblait que c'était ce virage numéro 14 dans lequel il était censé aller le faire, mais ça n'est toujours pas le cas pour Fabio Quartararo, toujours en deuxième position, qui profite bien là de l'aspiration créée par Johan Zarco. Il y a un petit gap, hein, qui s'est créé avec notamment Jack Milner, Bagnaia toujours en quatrième position, Maverick Vinales qui était parti deuxième sur la grille de départ, qui est actuellement sixième devant Espargaro, le dauphin de Quartararo au classement du championnat du monde, qui lui pour l'instant se situe en septième position. Tout ça est évidemment très serré, c'est de la MotoGP, donc tout peut se passer à n'importe quel moment.
Merci beaucoup, tu nous appelles évidemment s'il se passe quelque chose de majeur dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour le moment, c'est tout bon pour les Français. Zarco premier, Quartararo deuxième. 47e minute de jeu entre Toulouse et l'OGC Nice, Paul Lafitte.
Oui, effectivement, reprise de cette deuxième mi-temps avec des Niçois qui ont mis le pied sur le ballon. Circulation, les Niçois qui reviennent dans leur moitié de terrain avec Dante qui va chercher ses latéraux évidemment. On va essayer d'étirer un petit peu cette défense toulousaine et pourquoi pas les porter le dans changer. Belle action donc, finalement avortée avec eh bien, le retour, la belle couverture de terrain d'Anthony Rouault et ce score de 1-0. Timothée, Manu, évidemment les Toulousains ne vont pas gérer cet avantage au score, ils vont tenter de continuer de jouer comme ils l'ont fait d'ailleurs lors des 45 premières minutes.
Manu. Ah, on a perdu Manu.
On a perdu Manu.
Qui repartira
à Alsace. Et je suis plus là.
Ah si, tu es là Manu, ça y est, on t'a retrouvé effectivement. Oui. Est-ce que tu penses que Toulouse est capable de gérer, et puis surtout est-ce que tu es curieux de voir que l'OGC Nice n'a pas fait de changement?
Oui, c'est ça, je suis curieux que je me demande pourquoi ils ont pas fait des changements. Et j'ai l'impression qu'ils sont sur le même rythme que la première mi-temps. On voit bien Toulouse avec un bloc défensif à la perte du ballon qui est bien organisé et qui attend Nice, donc et qui se projette quand elle a le ballon, parce qu'on a vu une situation tout à l'heure aussi, là il a manqué son centre qui est passé par-dessus, mais voilà, je vois bien Toulouse ne pas être mis en difficulté par cette équipe de Nice qui ne fait pas de pressing. J'aimerais voir cette équipe plus haut de Nice, bien sûr, plus haut et plus constante dans un pressing.
Avec la possession de balle, donc encore une fois pour les Niçois, avec Dante qui va peut-être passer la ligne médiane et qui va.
Oui, mais ça c'est voulu, Paul. Hein, ouais. La possession de balle, je pense que Toulouse va la laisser à Nice et eux ils vont rester organisés simplement. Hein.
Avec un centre au deuxième poteau, Andy Delors un petit peu dépité, le ballon qui sort encore une fois des limites du terrain, ce sera un renvoi pour Maxime Dupé, le gardien du TFC. Pour l'instant, on est reparti un petit peu, messieurs, sur un faux rythme, hein, durant le début de cette deuxième mi-temps, alors qu'on avait eu quand même trois tirs cadrés pour le TFC, avec un but évidemment de Dalinga, lui qui avait trouvé la barre transversale à la 18e et qui avait eu une très très belle occasion, une tête piquée qui n'était pas cadrée. En tout cas pour l'instant, les Toulousains qui font le job pour leur retour en Ligue 1, eux champions de France de Ligue 2, qui ne sont pas impressionnés eh bien, d'affronter le 5e de Ligue 1 la saison dernière. Tu le disais, Manu, un petit peu d'adrénaline, hein, pour Toulouse de retrouver la Ligue 1 et d'affronter un adversaire de qualité comme Nice. Et on va suivre évidemment Sylla pour peut-être encore une nouvelle action, débordement côté gauche avec eh bien, le relais de Branko van den Bommel, le centre et la tête de Dante, le dégagement qui revient directement eh bien, dans les pieds d'un défenseur toulousain, et c'est cette fois-ci encore une fois, il touche lui aussi beaucoup de ballons, Nicolas Hyssen qui va eh bien, retourner eh bien, dans l'entrejeu avec eh bien, son Anthony Rouault, car lui aussi eh bien, très présent, il ne s'affole pas, la défense toulousaine qui est bien positionnée, et même si Nice la récupère le ballon pour l'instant, eh bien, ce n'est pas quand même dans les plans de Lucien Favre, hein, de voir cette équipe niçoise un petit peu trop attentiste, Timothée.
Ouais. Manu, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui. J'ai du mal à comprendre la situation. On voit une ligne de 5 milieux, voire 6 milieux.
Attention à cette action avec peut-être la frappe un petit peu trop écrasée du défenseur Dessler. On en reste là 1-0 et un corner à venir pour le TFC. Manu et Timothée, je vous ai coupé la chic.
On suit le
corner rapidement qui sera tiré de la droite vers la gauche, encore une fois, avec des Niçois qui sont un petit peu eh bien, aux abonnés absents, hein, depuis le début de cette deuxième mi-temps, de ce deuxième acte, avec Branko Van den Bommel qui prend tout son temps, le capitaine du Toulouse Football Club, pour aller tirer ce corner. Encore une fois, du monde dans la surface de réparation. On scoutera évidemment Dalinga, l'auteur du premier but, le 1-0 à la 20e, et peut-être encore une occasion à venir pour les joueurs de Philippe Montagnier. C'est tiré au premier poteau et finalement le dégagement en deux temps eh bien, des défenseurs de l'OGC Nice. 1-0, Timothée, la 52e ici au Stadium de Toulouse.
Merci Paul. Arnaud, je l'ai vu.
Tu l'as vu ?
Je l'ai vu. Il a fait son long lap.
Il a fait son long lap. Bon, t'as vu, c'était pas non plus la pénalité du siècle, mais c'est une pénalité qui a contraint Quartararo à céder effectivement plusieurs places, puisqu'il est passé de la deuxième à la cinquième position actuelle de ce Grand Prix de Silverstone. Le Français Juan Zarco qui est toujours en tête devant Milner, Bagnaia qui est quatrième. C'est Vignales sixième. On a Quartararo cinquième, je te le disais. Espargaro, l'adversaire de Quartararo au classement général du championnat du monde, qui lui est actuellement en 8ème position. Et qui c'est qui part au tapis? C'est Juan Zarco qui est parti au tapis. Je me posais la question de savoir si c'était lui ou si c'était son coéquipier, mais non, c'est bien Juan Zarco qui est parti au tapis et qui donc eh bien, perd tout espoir aujourd'hui de l'emporter après seulement 4 tours dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
Tellement dommage pour Juan Zarco qui a du mal en plus à relever son engin. En tout cas, tu m'as convaincu avec ton long lap. Moi qui suis un fan de F1, je préfère ça que les arrêts au stand, tu sais, où il les bloque pendant 5 ou 10 secondes.
Oui.
On pourrait rajouter un long lap sur les circuits. J'ai trouvé ça plutôt sympa.
Ouais.
J'achète. On va continuer évidemment à suivre Toulouse au GC Nice. 53 minutes de jeu, 1-0 pour Toulouse. Mais on va aussi se pencher sur les autres rencontres de l'après-midi. À 15h, il y aura notamment Montpellier 3. Et on va retrouver la douce voix et l'accent légèrement chantant de Julien Landry. Comment ça va, Julien?
Salut Timothée, salut Manu, salut à tous.
Ça va très bien. Messieurs, je vais vous couper car il y a un coup franc à la limite de la surface de réparation pour le GC Nice après une faute toulousaine et un joueur niçois qui est au sol, et l'arbitre n'a pas hésité une demi-seconde en sifflant ce coup franc très très intéressant pour le GC Nice qui est, on le rappelle, toujours mené 1-0 par le TFC depuis la 20e, et ce but de Dalingham. Et là, il y aura un mur dans la surface de réparation évidemment qui va tirer coup franc. Andy Delors qui se saisit de ce ballon, il a à côté de lui Calvin Stengs, lui auteur d'une très très belle frappe qui avait trouvé la barre transversale du gardien Maxime Dupé, c'était en première mi-temps. Du monde également dans la surface de réparation, le mur qui est à distance réglementaire, et Amine Gouiri qui vient discuter avec Andy Delors. Il a encore une fois Calvin Stengs qui va tirer coup franc. C'est vraisemblablement Andy Delors, en tout cas ils sont deux joueurs à se positionner, le pied droit d'Andy Delors ou le pied gauche de Calvin Stengs. La réponse dans quelques petites secondes. On joue la 55e ici au Stadium de Toulouse. Toulouse qui mène 1-0 pour son retour en Ligue 1 face à l'OGC Nice, l'un des candidats pour le top 5 cette saison. Pour l'instant, les Toulousains qui font le métier. Il y a du monde, on le disait, dans la surface de réparation. Les sifflets évidemment dans les travées. C'est Andy Delors qui s'y colle. Et le ballon qui passe à gauche des cages de Maxime Dupuy. On en reste là, messieurs. Toujours 1-0 pour le TFC, la 55e ici à Toulouse.
Frappe puissante, mais assez largement à côté de la part d'Andy Delors. Ça nous donne le temps de retourner voir Julien Landry. Julien, tu as une minute pour nous expliquer pourquoi il faut suivre avec attention ce Montpellier 3.
Ouais, parce qu'on va revoir TJ Savagnier en Ligue 1. Donc le génie Savagnier de retour. Non, peut-être parce qu'on va revoir Montpellier s'imposer en Ligue 1, qui ne se sont plus imposés depuis le 20 mars dernier, qui reste sur une incroyable série de 12 défaites et 2 matchs nuls en comptant les 5 matchs amicaux. Les Montpellierains ont perdu leurs 5 matchs amicaux, mais voilà, Olivier Dalloz lui a appris cette semaine que c'était des matchs de préparation, qu'il avait fait beaucoup d'essais, et du coup on va retrouver TJ Savagnier affûté après une préparation estivale, qui a retrouvé la teinture qui nous avait régalé la saison dernière, et on espère qu'avec son pied il va de nouveau nous régaler, puisqu'on devrait y voir en plus des buts, parce que 3 a encaissé quasiment 20 buts sur la préparation, les Montpellierains autant, et quand on voit la force offensive des Montpellierains cet après-midi, on devrait se régaler, même s'il va faire très chaud, messieurs. 40 degrés estimés au coup d'envoi à 15h à la Mosson. Évidemment, ça va être une donnée à prendre en compte, parce que les joueurs vont avoir
avec Dalinga qui est dans la surface de réparation. Dalinga, et finalement sa frappe est un petit peu croisée, contrée par Dante. Nouveau corner, nouveau pressing offensif de la part des joueurs de Philippe Montagnier, qui pousse pour essayer, messieurs, de marquer ce deuxième but. Encore une fois, Dalinga très présent, certainement le meilleur joueur toulousain depuis le début de cette partie. Lui, recrue, comme Timothée le précisait, qui arrive des Pays-Bas, qui a marqué beaucoup de buts la saison dernière et qui a déjà marqué un but en Ligue 1 avec son nouveau club, et qui va pourquoi pas tenter le doublé. En tout cas, c'est encore une fois Branko van den Bomen qui va tirer le corner de la droite vers la gauche. Du monde dans la surface de réparation. Dalinga, il y a également Silla, il y a également des défenseurs toulousains, peut-être un corner au deuxième poteau, et finalement la tête du défenseur niçois Jordan Lautamba. On en reste là, donc toujours 1-0 pour le TFC, la 57e ici à Toulouse.
Merci beaucoup Paul, évidemment on continue à suivre cette rencontre. On n'a pas signalé aussi que c'était certes le premier but de Dalinga, mais c'était la première passe décisive de Branko van den Bomen en première division, lui qui en avait délivré 21 la saison dernière en Ligue 2, un record. Attention avec ce ballon toujours dans la surface de réparation, donc ce sera ressorti. Parler Niçois, on va également remercier Julien Landry. On lui demande de nous présenter Montpellier 3. Il nous a présenté Montpellier, c'est déjà pas mal. On suivra également le parcours de l'Estac, qui va évidemment cravacher pour le maintien cette saison. C'est une quasi certitude pour les hommes de Bruno Irles. On marque une toute petite pause et on revient pour la suite de cet Intégral Sport et de ce match entre Toulouse et l'OGC Nice.
RMC Intégral Sport.
Timothée Mémon.
14h17, on est de retour dans l'intégral sport. Toulouse OGC Nice 1-0 en faveur de Toulouse. Arnaud Souk, un rapide point sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Zarco n'est pas reparti ici.
Zarco n'est pas reparti, en tout cas il ne figure plus sur les classements. C'est un Espagnol qui est en tête de ce Grand Prix, Alex Rins, devant l'Italien Francesco Bagnaia et l'Australien Jack Miller. Fabio Quartararo qui lui évolue actuellement en 5e position, et son adversaire au classement général, Espargaro, qui lui est 7e. Mais donc la mauvaise nouvelle, c'est que le canois Juan Zarco est tombé alors qu'il était en tête au cours du 4e tour. Il était parti en pole position, il pouvait s'envoler vers sa première victoire peut-être en MotoGP. Eh bien il n'en est rien, puisque donc il a chuté dans un virage qu'il a pris peut-être un petit peu trop avec un peu trop d'angle au niveau de sa moto, et du coup il est parti au tapis. Tout va bien pour Juan Zarco, mais forcément c'est la désillusion.
La grosse occasion, beaucoup. La grosse occasion pour le GC Nice avec Maxime Dupé qui se couche. Il y avait Amine Gouiri, il y avait du monde évidemment dans cette surface de réparation, et finalement Thuram lui aussi se relève. Il semblait un petit peu blessé, boitier à la cheville, mais finalement il n'en est rien, et Toulouse qui récupère donc eh bien ce ballon, le dégagement de Maxime Dupé à la main. C'est un jeu à deux avec cette fois-ci Nicole Hensen. Une petite alerte Manu pour le TFC sur cette action niçoise.
Oui mais bon, tu vois, c'est pas dans un collectivement, si tu veux, il y a eu deux passes, il y a eu une intervention, il y a eu une réussite de passe. Après Thuram, c'est vrai qu'il est venu buter contre le gardien, mais tu vois, c'est pas au départ un jeu collectif bien préparé comme on peut faire dans les entraînements, tout ça. Tu vois, c'est plutôt un problème de pouvoir enchaîner chaque fois des passes pour inquiéter et pour trouver aussi des espaces dans cette défense toulousaine.
Sortie autoritaire en tout cas de Dupé,
oui,
et ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est peut-être le point d'interrogation de cette équipe toulousaine. Gardien d'expérience certes, est-il au niveau de la Ligue 1? Et ben on va le voir dans les minutes et les matchs qui viennent, les journées qui viennent. En tout cas il a réussi sa sortie sur ce coup-là. Tu nous appelles Paul, si parce quelque chose sur la pelouse du stadium. Avant cela, on va aller faire un tour à Lens, où Jean Baumel nous attend tout à l'heure à 15h, le début du match entre Lens et Brest. Salut Jibo.
Salut Tim, salut Manu, bonjour,
salut
à toutes
Jibo.
Et à tous.
On imagine une belle ambiance à Lens pour cette rencontre. Explique-nous pourquoi il faut la suivre et pourquoi ce sera le meilleur match du multiplex.
Alors déjà, ça fait 9 ans que Lens n'avait pas reçu lors de la première journée de championnat. Ils demandent toujours à être à l'extérieur parce qu'ils espèrent jouer à Marseille, à Montpellier, à Nice, parce qu'il y a plein de nordistes qui sont dans le sud en vacances. Voilà, donc c'est une première depuis 9 ans. Stade à guichet fermé pour Brest, vous imaginez. Il y a 29 000 abonnés, donc ça va être une ambiance de folie avec un soleil radieux. Et puis l'occasion de voir les nouvelles têtes, notamment l'attaquant belge Loïs Openda, acheté 10 millions d'euros. C'est le plus gros montant dépensé par le club nordiste de son histoire. 10 millions d'euros, donc pour le jeune international belge. Brice Samba aussi, ancien gardien de l'OM, qui vient de Nottingham Forest. Donc voilà, du côté de Lens, voir si le jeu, normalement, avec les bons résultats contre l'Inter, victoire 1-0 en match amical, et contre West Ham 0-0, eh bien on sent que l'équipe est déjà prête. En face, Brest, eh bien les a battus deux fois la saison dernière, peut-être les points qui ont privé Lens de la Coupe d'Europe. Donc ça nous donne un match assez palpitant. Du côté de Brest, pas de surprise hein, dans la compo de départ de Michel Desacarian. Voilà, on devra assister à une grosse ambiance dans un premier temps, et on l'espère, du beau spectacle sur une magnifique pelouse de Bollard. Ils espèrent faire partie du top 5 des plus belles pelouses de Ligue 1 d'ici la fin de saison.
Pas de surprise côté Brestois, et le retour de Lesmelou en Ligue 1 qui sera titulaire,
exact,
pour cette rencontre. Effectivement, ça fera plaisir de retrouver Lesmelou sur les pelouses de Ligue 1. Merci Jibo. On retourne au Stadium à Toulouse pour le match entre le TEF et le GYM.
Ouais, et tu évoquais Timothée tout à l'heure, bien un petit joueur, petit par la taille, 19 ans. Il s'agit du Roumain Ilié, qui vient de rentrer sur la pelouse du TFC. Le premier changement donc opéré par le technicien de l'OGC Nice, Lucien Fabre, peut-être un petit peu pour dynamiser cette équipe qui en a bien besoin, qui est toujours menée 1-0. On joue la 64e ici au Stadium de Toulouse, et les Niçois vont devoir évidemment eh bien se retourner les manches. La rentrée également de Mario Lemina côté OGC Nice, des Niçois qui sont en possession de ce ballon, et finalement le ballon qui sort encore une fois des limites du terrain, un petit peu trop court. Melvin Barr sur cette passe d'un de ses coéquipiers. Manu, ces deux entrées peuvent changer le cours du jeu, en tout cas peuvent changer
il faut espérer. D'abord, Lemina, c'est quelqu'un qui presse, donc il faut qu'il soit suivi après par ses partenaires. Et puis voilà, on va découvrir ce jeune joueur d'avenir. Donc voilà, on va voir si l'OGC Nice arrive à se créer davantage d'occasions.
Carton jaune pour Dante, le défenseur de cette formation de l'OGC Nice, alors qu'il y avait un départ dans le dos de la défense niçoise d'un joueur toulousain qui s'est écroulé. Dante qui va discuter encore une fois avec Johan Hamel, mais ça ne changera pas la décision de l'arbitre principal de cette rencontre. Une petite biscotte, un carton jaune et surtout un coup franc, messieurs, important et très intéressant à venir, que va tirer Branko van den Meulen, le capitaine du TFC, lui auteur d'une passe décisive pour le but de Dalinga. C'était à la 20e en première mi-temps. Le mur niçois qui va se positionner. On voit Ratao au deuxième poteau. Il y a du monde dans la surface de réparation, également l'immense Nicole Elsen. Il y aura évidemment peut-être encore une occasion à venir au deuxième poteau. En tout cas, Branko van den Meulen va prendre ses responsabilités pour ce nouveau coup franc. On le précisait il y a quelques instants, les entrées conjuguées de Mario Lemina et de Rares Illy. Branko van den Meulen qui va donc s'élancer pour tirer ce coup franc, tiré de la droite vers la gauche à 5 mètres de la surface de réparation, avec évidemment Marcin Bulka, le gardien de l'OGC Nice, qui a positionné sa défense. C'est peut-être au deuxième poteau et finalement le ballon qui n'atterrit sur le crâne de personne, qui sort des limites du terrain. C'était une occasion pour le TFC, mais finalement qui ne donne rien. Toujours ce score donc de 1-0. Il reste très précisément 25 minutes à jouer ici au Stadium de Toulouse, et l'entrée en jeu d'un nouveau joueur toulousain, cette fois-ci la sortie, le numéro 6 qui rentre en jeu côté toulousain. Il s'agit de la recrue, lui aussi venu des Pays-Bas, Zakaria Aboukal, qui va donc remplacer Ratao, qui n'est pas véritablement satisfait de sa sortie. 1-0 donc, la 66e, Timothée, ici à
Paul, éclaire-nous sur deux points. D'abord, c'est le début de saison, on apprend à connaître des joueurs. Aboukal ou Aboural?
Aboukal.
Aboukal, c'est comme ça qu'il a été présenté, très bien.
C'est ça.
Ça permettra de ne pas se tromper lors des prochains commentaires. Et le positionnement de Rares Illy, l'attaquant roumain de l'OGC Nice, il est devenu en deuxième attaquant aux côtés d'Andy Delors, ou alors il a pris un côté?
Il a pris un côté. Il est pour l'instant sur un côté.
Ok, donc on reste dans le même dispositif côté
Nice. Il touche, attention, il touche un premier ballon, justement, mais pas de danger, car les joueurs de l'OGC Nice vont se dégager. Attention quand même, c'est un petit peu chaud avec la pression toulousaine. On va suivre cette action finale. Thuram pour Dante, les Niçois qui s'en sortent, mais le beau pressing des Toulousains. 1-0, Thibault, la 67e ici à Toulouse.
Merci Paul, on revient vers toi évidemment si il se passe des choses au Stadium. On a avant cela le défi hippique, et c'est avec Frédéric Kita.
RMC, le défi.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Timothée, bonjour à tous. Effectivement, le défi hippique, hein, comme tous les dimanches à 14h25 sur RMC. Et aujourd'hui, le Quintet Plus se dispute sur l'hippodrome de Deauville à 15h15 sur la distance de 1600 mètres et en ligne droite. Et pour ce défi hippique, on accueille un parieur qui est en grande forme. Salut Jérôme, comment vas-tu?
Jérôme?
Allô, oui, excusez-moi, je vous entendais pas.
Tu vas bien? Bon, pour situer un petit peu, tu as donné le gagnant du Quintet de vendredi à 30 contre 1. Donc effectivement, tu es en bonne forme. Tu l'as touché aussi?
Oui, j'ai touché un petit peu, ouais, j'avais mis 10 euros dessus. Ouais.
Oh bah parfait. Alors aujourd'hui, quel est ton choix dans ce quintet qui est assez ouvert sur l'hippodrome de Deauville?
J'ai tenté un des favoris, le numéro 9, Nowino.
Nowino, donc c'est le tenant du titre, hein, c'est effectivement le favori à 5 contre 1. Donc toi, tu lui vois une bonne chance?
Oui, comme tu dis, c'est le tenant du titre. Il a la même valeur que l'année dernière quand il avait gagné. Là, il a fait deux courses de préparation. Bon, je pense qu'il est prêt à défendre son titre.
C'est noté. Merci Jérôme. La dernière minute RMC dans ce quintet, c'est le numéro 3 Parchemin. Un concurrent qui a déjà couru au niveau groupe 1. Il avait terminé 5e l'an passé de la poule d'essai des poulains. Et ici, pour son premier handicap, il est capable de frapper un grand coup. Je rappelle la règle. Si ton numéro 9, Nowino, termine devant le numéro 3 Parchemin, Jérôme, tu seras de nouveau avec nous demain pour le défi hippique. Et donc, je te souhaite bonne chance.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Frédéric, et donc bonne chance à Jérôme. Bien évidemment, on retourne rapidement au Stadium, le match entre Toulouse et l'OGC Nice. Je crois que c'est le cooling break.
Oui, c'est ça, la pause fraîcheur, Timothée, à la 69e ici, 1-0 pour Toulouse. À noter un nouveau changement cette fois-ci côté TFC, l'entrée en jeu de Denis Genreau qui a remplacé Fares Chaibi. Pour le reste, eh bien, les acteurs méritent cette petite pause fraîcheur. Ils vont retourner sur le terrain dans un petit peu moins de 2 minutes.
On va faire un petit tour du côté du MotoGP avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, Arnaud Souk.
Et avec un changement de leader, un troisième leader à 8 tours de la fin, l'Italien Francesco Bagnaia qui a pris les commandes de ce Grand Prix de Silverstone devant Alex Rins, l'Espagnol. L'Australien Miller toujours en troisième position. Je vous rappelle la chute tout à l'heure de Juan Zarco, le Canois qui était en tête du Grand Prix, qui a chuté au bout de 4 tours actuellement. L'autre Français en piste est 6e, Fabio Quartararo, le leader du championnat du monde, qui est sixième. Son dauphin Espargaro, Alex Espargaro, l'Espagnol, est lui huitième de cette course. Donc pour l'instant, c'est quand même, allez, on va dire, on va essayer de se consoler, du bénéfice pour les Français, en tout cas pour Fabio Quartararo, puisqu'il accentue son avance en tête du championnat du monde. Si jamais on en reste là, il reste encore 7 tours à parcourir, on va dire une petite quinzaine de minutes pour avoir le résultat final de ce Grand Prix de Silverstone.
Le troisième est loin derrière Espargaro.
Le troisième, tu veux dire au classement, c'est Bagnaia qui est troisième et qui
recoller un petit peu,
qui reviendrait à 51 points, si mes comptes sont bons, à 51 points de Quartararo au classement général. Donc il est relativement loin. Et Juan Zarco, du coup, va perdre lui sa troisième place au classement général.
Merci beaucoup, Arnaud. On retourne à Toulouse pour le match entre Toulouse et l'OGC Nice.
Mais avec un nouveau changement, Timothée, la sortie d'Amine Gouiri remplacé par Bilal Brahimi. On sentait venir à l'heure de jeu les premiers changements de Lucien Favre, le technicien de l'OGC Nice, pour pourquoi pas porter le danger un petit peu plus sur cette cage toulousaine, inviolée pour l'instant depuis le début de cette partie, et ce score de 1-0. On rappellera le buteur, il s'agit de l'une des quatre recrues toulousaines, Dalinga, à la 20e, 1-0, un score donc à l'avantage du TFC, et les joueurs niçois qui vont tenter encore une fois de relancer la machine. On voit encore une fois Marcin Bulka relancé à la main, avec Dante, lui aussi le défenseur central de cette formation niçoise, qui transmet le ballon à Jean-Claire Todibo. Mais pour l'instant, Manu, on ne sent pas véritablement cette équipe niçoise dangereuse face au TFC.
Non, on ne les sent pas. J'ai du mal à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Il faut que peut-être on s'habitue à avoir une équipe niçoise de ne pas faire le pressing, surtout quand on est mené. Donc voilà, là je crois qu'il a mis deux attaquants. Il est à côté de, je crois, de Delors. Donc peut-être que ces joueurs vont s'entendre, mais là on a vu sur un grand ballon tout à l'heure où le milieu de terrain ne vient pas pour la récupération du second ballon. Donc voilà, il y a les lignes qui sont étirées, et ça laisse la possibilité aux Toulousains tranquillement de récupérer le ballon et de mettre en danger la défense et tout le bloc niçois.
En tout cas, pour l'instant, les Toulousains, hein, qui répondent présents.
Présents, oui.
Dans la division.
Ils font leur match, hein. Ils n'en demandent pas plus. Ils ont marqué un but, maintenant, ils attendent Nice dans leur moitié de terrain, avec un bloc défensif bien compact, et laisse très peu d'espace aux Niçois.
Justement, Manu, on peut s'attendre à voir les Toulousains à 20 minutes de la fin de cette partie, cadenasser en défense et de ne pas prendre risque de
mais Paul, ils le font quelque part, parce que dans leur replacement à la perte du balle, on voit tous les Toulousains qui sont dans leur moitié de terrain. Donc voilà, et après, quand ils le récupèrent, ils se projettent toujours vers l'avant. Alors il va falloir attendre encore peut-être à la 80-85e minute, voir s'ils vont rester défensivement et bas pour que préserver ce résultat.
Ce score de 1-0 donc, hein, en faveur des joueurs de Philippe Montagné. Cette fois-ci, c'est une mauvaise transmission d'un joueur niçois. Il s'agit encore une fois de Jordan Lotomba. Mais Toulouse qui récupère encore une fois le ballon 1-0. La 73e ici au Stadium.
On va faire un petit tour sur un autre match qui commencera tout à l'heure à 15h. On a le temps, Paul.
C'est chaud. Non, finalement, c'est ressorti par un défenseur.
On a un léger décalage, j'entends pour moi. On va faire un tour à Angers-Nantes avec David Filippo, l'un des petits derbies de cette journée de Ligue 1. Salut David.
Salut Timothée, salut Manu, salut tout le monde.
Pourquoi faut-il suivre ce match plus que n'importe quel autre?
On est curieux de voir si le FC Nantes va tendre l'autre joue. C'est du côté d'Angers. Les Canaries ont été étriés 4-0 en finale du trophée des champions. Alors évidemment, c'était le PSG en face, hein. C'était dimanche dernier à Tel Aviv. C'est la plus grosse défaite, hein, depuis l'arrivée de Camboire, il y a maintenant plus d'un an et demi. Donc cette équipe de Nantes arrive avec peu de certitude ici dans ce derby face à Angers. Camboire l'a dit, il s'est dit un petit peu inquiet. Il peut commencer la saison avec cette équipe, mais il va falloir sur la durée, ça ne tient fonctionnera pas. Il va falloir d'autres renforts pour ce FC Nantes. On attend vraiment de voir si cette équipe de Nantes va réagir, si les hommes d'Antoine Camboire vont réagir cet après-midi du côté d'Angers. Et une petite chose, Timothée, je sais pas si t'as déjà commenté du côté d'Angers par le passé.
Dans le grenier.
Mais eh bien, je vais voir les tireurs de corner. C'est bon, ah, ça y est, il n'y a plus la fameuse poutre parce qu'il y a la nouvelle tribune Léonard. Elle fait plus de 5000 places. Ça donne un petit stade un peu à l'anglaise à Angers. C'est plutôt sympa. On est très bien installés, nous, les journalistes. C'était pas vraiment le cas. Non. On va le dire par le passé. On voyait pas les tireurs de corner, hein, je me répète. Donc, c'est plutôt sympa. Il va y avoir 15 000 personnes. Le stade peut en contenir 18 500. Donc, une belle ambiance à venir cet après-midi pour ce derby des Pays de la Loire entre Angers et le FC.
Merci beaucoup David, on te retrouve tout à l'heure à 15h au commentaire de ce match bien évidemment. Un rapide tour au stadium.
Oui, attention avec un Toulousain qui est dans la surface de réparation, qui se couche sur une transmission de Ngoumou et le relais du défenseur Dessler, mais finalement les Niçois qui s'en sortent dans le petit périmètre. Toulouse qui continue quand même, Timothée et Manu, de mettre la pression. Toulouse qui mène toujours évidemment 1-0. Le dernier quart d'heure ici au stadium de Toulouse.
14h32, on revient dans l'intégral sport dans quelques instants pour suivre la suite et la fin de cette rencontre entre Toulouse et l'OGC Nice. Vous ne raterez rien à partir de 15h, le multiplex Ligue 1 à suivre évidemment sur RMC, le match de ce soir également, celui de l'Olympique de Marseille face à Reims, ce sera là aussi à suivre sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Timothée Mémon.
L'intégral sport, on est de retour avec Manuel Amoros et avec Paul Lafitte.
Et l'égalisation de l'OGC Nice avec un but à l'instant, magnifique but inscrit par Aaron Ramsey qui venait, Timothée, de rentrer en jeu il y a quelques secondes, qui avait remplacé Calvin Stengs avec un superbe slalom de Bilal Brahimi et qui délivre une superbe passe décisive, une offrande pour Aaron Ramsey qui aura marqué après seulement 20 secondes de jouer en Ligue 1. L'égalisation, un but partout. On joue la 78e ici à Toulouse et le suspense est relancé évidemment dans cette partie entre Toulousains et Niçois ici au stadium.
Emmanuel, on est obligé de le dire, coaching gagnant,
ben c'est ce qu'on attendait de la part de l'entraîneur de Nice. Voilà, il y a eu un joueur en mouvement, Rancé, dans la surface de réparation. Cette défense toulousaine un peu sur le recouloir, et à partir de là, il y a eu ce but magnifique. Bon, c'est un peu contre le cours du jeu, je dirais, mais voilà, ça relance Nice et peut-être qu'ils vont mettre un peu plus de pression pour aller chercher la victoire.
Ouais, c'est en tout cas un coup sur la tête des joueurs de Philippe Montagnier, qui menait 1-0, j'allais dire, assez tranquillement, messieurs, et sur ces entrées conjuguées il y a quelques instants, donc de Bilal Brahimi et de Aaron Ramsey, dont on parlait dans la présentation, l'une des recrues phares de cette formation de l'OGC Nice. Eh bien, ils remettent les compteurs à zéro, ou plus précisément les compteurs à un partout, dans un stadium toujours en surchauffe. 11 minutes à jouer avant la fin de cette rencontre. Il y aura bien sûr quelques minutes dans le temps additionnel, mais suspense garanti donc sur cette pelouse du stadium de Toulouse, messieurs.
Début de pari réussi pour l'OGC Nice, qui est allé chercher un Aaron Ramsey, Manuel, qui sortait d'une vilaine expérience avec la Juve, hein, clairement.
Oui, ben c'est des joueurs quand même qui ont énormément d'expérience, et ça peut amener cette expérience à l'OGC Nice. Voilà, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui peut être efficace devant aussi. Donc oui, c'est une belle recrue pour Nice. Maintenant, il va falloir voir comment il peut s'adapter dans ce système de jeu de Fabre.
Paul.
Oui, messieurs, ce score donc de 1 but partout, et les Toulousains qui viennent de nouveau camper quasiment dans la surface de réparation avec Dalinga pour Silla. Il se défait de 3 défenseurs, le joueur toulousain, mais finalement c'est Illy qui récupère le ballon tranquillement pour Dante, qui envoie le ballon non pas sur ses coéquipiers mais sur un défenseur du TFC, et Silla qui récupère encore une fois le ballon, et la belle ouverture dans le côté gauche, et la frappe en première intention, le centre un petit peu écrasé, un petit peu manqué de la recrue. Il s'agit de Zakaria Aboukal, et ce sera donc un nouveau corner tiré de la gauche vers la droite pour le TFC. Encore une fois, c'est l'inusable, le capitaine Branko van den Bomen, qui va tirer ce corner pour pourquoi pas permettre au TFC de reprendre l'avantage au score. Moins de 10 minutes à jouer donc ici au stadium de Toulouse, et nouvelle pression sur les épaules des Niçois. On voit encore une fois Marcin Bulka, le portier, le gardien de cette formation de l'OGC Nice, motivé, placer sa défense. Il y a du monde, eh bien, devant la surface de réparation finalement la tête au premier poteau d'un joueur niçois pour dégager provisoirement le danger. Finalement, en deux temps, les Niçois qui se dégagent mais qui perdent le ballon. C'est un petit peu du aura football hein, en cette fin de rencontre, malgré cette très très belle égalisation. On le rappellera, l'ouverture du score de Dalinga à la 20e et l'égalisation à la 78e d'Aaron Ramsey qui venait de rentrer en jeu sur une superbe offrande de okay, son Paul, coéquipier.
Je te coupe, on va suivre la fin du Grand Prix. C'est chaud pour la première place, Arnaud Souk.
Effectivement, la fin du Grand Prix de Silverstone en MotoGP entre l'Italien Francesco Bagnaia et l'Espagnol Maverick Vinales sur sa Aprilia qui a failli dépasser le pilote Ducati, mais finalement il s'en est bien sorti. L'Italien qui, si on en reste là à 2 minutes on va dire environ de la fin de cette course hein, puisqu'on rentre à l'instant dans le dernier tour, l'Italien Francesco Bagnaia qui serait, on va dire, le grand vainqueur de ce week-end de MotoGP, Timothée, puisque il reviendrait en troisième position au classement général à seulement 50 points, même 49 points si mes calculs sont bons, de Fabio Quartararo, le Niçois qui actuellement est 8e, hein, qui avait réalisé un super début de Grand Prix tout à l'heure derrière Juan Zarco, mais qui a donc dû observer cette pénalité de longue lap qui lui a fait perdre plusieurs secondes, qui lui a fait perdre également plusieurs places, et il en a encore perdu derrière. Mais a priori il devrait, parce que c'est aussi là l'une des batailles de ce dernier tour, terminé devant son dauphin au championnat du monde, l'Espagnol Alex Espargaro, les deux hommes qui ne sont plus séparés que par 261 millièmes sur la piste de Silverstone, en Angleterre. On observe évidemment tout ce qui se passe. Bagnaia qui reprend un petit peu d'avance d'ailleurs actuellement sur l'Espagnol Maverick Vinales, plus d'une demi seconde d'avance à quelques encablures de la fin de ce Grand Prix. Donc plein d'enjeux évidemment pour ce dernier tour, un Grand Prix, on le disait, avec cette chute de Juan Zarco qui vraiment c'est terrible. On a vu les images hein, du pilote canois de retour dans les stands plusieurs minutes après, qui vraiment se prenait le casque entre les deux mains, qui disait mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'était sa 8e pole position en carrière en MotoGP à Juan Zarco, et il n'a toujours pas réussi à convertir toutes ses pole positions en victoire. Donc encore une désillusion aujourd'hui pour le pilote canois, alors qu'on arrive dans le dernier secteur du dernier tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. 12e levée de la saison en championnat du monde de MotoGP. Bagnaia toujours devant Maverick Vinales, 391 millièmes d'avance pour l'Italien sur l'Espagnol. A priori ça va le faire pour Bagnaia qui va signer une nouvelle victoire cette saison. Donc le pilote italien, ça sera sa 4e victoire de la saison. C'est lui qui a le plus de victoires tout simplement depuis le début de la saison en MotoGP. Victoire de Bagnaia devant Vinales et Jack Miller qui toute la course sera resté 3e. L'Australien Quartararo termine 8e, Espargaro 9e, ce qui nous donne au classement en général une avance désormais de 22 points pour Fabio Quartararo sur Alex Espargaro, l'Espagnol. Et donc Pecco Bagnaia qui va passer en 3e position au classement général et qui lui aura 49 points de retard sur Fabio Quartararo.
Il n'y a pas de petite victoire, celle de Quartararo permet de grappiller un petit point.
C'est pas une victoire.
Pas une victoire, non, mais c'est ce petit point d'avance
victoire personnelle,
sur son second Espargaro. Un petit point de gratté de plus, ça pourra toujours servir en fin de saison. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir fait vivre ce MotoGP passionnant à Silverstone. En retour au stadium pour la suite et la fin de cette rencontre entre Toulouse et l'OGC Nice. Oui, avec Paul Lafitte.
Oui, Timothée, les 5 dernières minutes, méga money time que vous aimez tant sur AMC en ce début d'après-midi, avec Nice qui était mené 1-0 depuis la 20e, et ce but de Dalinga et l'égalisation d'Aaron Ramsey, un partout. Et donc pourquoi pas entrevoir une victoire niçoise, car les Niçois sont en train de pousser un corner qui n'a rien donné, et des Toulousains qui sont en train, Manu, peut-être de commencer un petit peu à tirer la langue. Ça devient vraiment compliqué pour les joueurs de Philippe Montagnier.
Oui, c'est vrai, ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher la victoire ou essayer de préserver le résultat qui est bon pour eux quand même. Mais moi, Brahimi, il m'a bien plu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Paul, mais l'entrée de Brahimi a été très bonne. Il a mené le premier but, mais il percute. Ouais. Et c'est ce qu'on demande des attaquants. Et on n'a pas vu Guiri percuter autant que Brahimi l'a fait en peu de temps qu'il est sur le terrain.
Il a dynamité clairement. Attention à cette action avec un joueur toulousain, Dalinga, qui est dans la surface de réparation, qui redouble avec Silla au deuxième poteau. Il n'y a personne. personne. Si peut-être finalement en deux temps, c'est un Toulousain encore une fois qui récupère le ballon, mais qui ressort ce ballon en deux temps. Les Toulousains qui vont peut-être tenter, eh bien, d'aller rôder dans la surface de réparation. Finalement, le ballon qui sort des limites du terrain. Que dit l'arbitre? Ouais, ce sera un dégagement, hein, 6 mètres en faveur de Marcin Bulka, le gardien de cette équipe de l'OGC Nice. Effectivement, tu le précisais, Manu, ouais. Bilal Brahimi qui a amené, eh bien, beaucoup de punch à, oui, cette formation, oui, niçoise, en tout cas depuis son entrée en jeu. Avec, on le rappelle évidemment, cette passe décisive pour le but de Ramsey, l'égalisation, oui, niçoise, alors qu'il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer avant le temps additionnel ici, alors, au stade.
Messieurs, une petite statistique sur les 10 buts, sur les 10 buteurs les plus rapides de l'histoire de la Ligue 1. Les 10 buteurs les plus rapides, c'est autour de 20 secondes pour le 10e. Là, il a mis 26 secondes à Ron Ramsey. En tout cas, sur les 10 buteurs les plus rapides, jamais il ne s'agissait d'un joueur qui disputait son premier match de Ligue 1. Donc c'est probablement, on va quand même vérifier ça, mais c'est probablement le but le plus rapide pour un joueur qui découvre un championnat. 26 secondes pour Aaron Ramsey, 26 secondes après être rentré. Il a égalisé pour l'OGC Nice. Belle performance de la part de Ramsey. Manu, est-ce que tu vois les deux équipes se départager sur la fin de cette rencontre? On a l'impression qu'il y a un petit peu d'électricité, de chaos dans l'air peut-être.
Oui, peut-être. Mais je sais pas si un point pour Nice, je pense que ça peut les contenter, même parce qu'ils n'ont pas fait quand même un grand match. Et Toulouse, peut-être qu'ils vont appuyer un petit peu sur les dernières minutes qui restent. Mais je sens quand même ce match nul qui se profile pour les deux équipes.
Attention à ce slalom de Jordan Lotomba, finalement le ballon qui est contré. Manu, tu le précisais, si le 1 partout au vu de la physionomie du match ne serait pas un bon résultat pour le TFC, est-ce que ce match nul qui se profile, on rappelle, à l'horizon pour les Niçois serait un bon résultat pour le retour de Lucien Fabre, enfin de l'ère post-Galtier?
Ouais, ouais. Alors je peux te dire non, c'est pas un bon résultat parce que je crois que Nice a des ambitions autres que de finir à la 10e place, donc c'est pas un bon résultat, mais vu le match qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un très bon résultat parce qu'ils se sont pas créé énormément d'occasions. Ils en ont eu quelques-unes certes, mais pas énormément. Mais on les attend, les Niçois, dans la qualité du jeu aussi, dans le collectif, et là malheureusement aujourd'hui ils ont déçu. Donc pour eux ça serait un bon résultat de partir de Toulouse avec un point.
Avec ces deux dernières minutes donc ici au Stadium de Toulouse, ce match nul pour l'instant, un but partout entre les joueurs du TEF et les joueurs de l'OGC Nice, avec Bilal Brahimi qui a touché beaucoup de ballons depuis son entrée en jeu, avec Aaron Ramsey qui lève la tête et qui a Duchamp qui va peut-être frapper en première intention, un ballon piqué, eh bien, pour son attaquant. Finalement, le ballon qui est ressorti par la défense toulousaine, mais l'OGC Nice monopolise le ballon en cette fin de partie. On voit les techniciens de part et d'autre donner des instructions à leurs joueurs qui sont un petit peu cramés. 33 degrés ici à Toulouse, donc les corps ont souffert. La 89e, et les joueurs de l'OGC Nice qui sont toujours en possession de ce ballon, avec cette fois-ci Andy Delors qui se fait contrer en deux temps. La défense toulousaine, messieurs, qui veille au grain, à l'image, eh bien, de l'excellent défenseur Anthony Rouault. Les Toulousains qui ont du mal cependant à sortir de cette défense, avec Ili qui va tenter dans le couloir gauche de récupérer le ballon dans le petit périmètre. Ils ne s'en sortent pas, les Toulousains, et Nice qui récupère encore une fois, Manu, le ballon. Attention peut-être à une dernière offensive niçoise à venir dans quelques instants.
Ouais, ouais, ils ont décidé, les Toulousains, de défendre et de préserver ce résultat qui est quand même bon pour eux, de prendre un point. Mais voilà, ils s'exposent parce qu'ils reculent. Alors on peut préserver, essayer de préserver un résultat, mais ne pas reculer, parce que là on s'expose vraiment à côté du but. Donc si on avance un peu plus et qu'on sort de cette zone des 16m50,
et Manu, je te coupe, là, il y a un corner tiré de la gauche vers la droite pour l'OGC Nice. Attention, des joueurs niçois sont venus dans la surface de réparation. Finalement, la tête du défenseur niçois, du défenseur du milieu toulousain, Sperings, et finalement le ballon qui est toujours en l'air. Une nouvelle tête toulousaine. Les Toulousains vont-ils pouvoir se dégager en deux temps, trois temps, avec Silla à son tour, un petit crochet qui va chercher un défenseur et renvoyer le jeu, eh bien, dans le camp niçois pour les dernières secondes de cette partie. Il y aura très précisément, on va vous l'indiquer dans quelques secondes, 4 minutes de temps additionnel, car il y a eu pas mal de joueurs blessés, des arrêts de jeu durant ce deuxième acte. Donc 4 minutes de temps additionnel entre Toulouse et l'OGC Nice pour tenter, pourquoi pas, de départager ces deux formations. On perdra l'ouverture du score. Attention à ce ballon peut-être perdu, non, finalement récupéré en deux temps par les Toulousains. L'ouverture du score de Dalinga à la 20e, et l'égalisation d'Aaron Ramsey à la 60e. 78e. Et là, c'est Dante qui récupère le ballon de temps pour Bilal Brahimi. Brahimi qui touche, Manu, tu le précisais, oui, énormément de ballons. Hein. Lui, peut-être le dynamiteur de cette formation de l'OGC Nice.
Oui, parce qu'il est toujours en mouvement. Il vient chercher le ballon. Donc, il ne reste pas collé à sa ligne, un peu comme Guerri le faisait quand il était sur le terrain. Donc, voilà, ça amène un plus à l'OGC Nice. Et c'est peut-être dommage qu'il ait pas, qu'il soit pas rentré un peu plus tôt.
Avec un joueur toulousain qui se couche, il s'agit de Rhys Ilay, meilleur buteur du championnat la saison dernière en Ligue 2 avec 20 réalisations, blessé aux adducteurs, qui vient de faire son entrée en jeu pour les dernières secondes et il se couche dans la surface de réparation. Et l'arbitre Johan Hamel qui vient discuter justement avec l'avant-centre du TFC en lui demandant de se relever. Il n'y aura pas de pénalty, il n'y aura pas non plus de carton jaune pour le joueur du TFC. On en reste là, encore 2 minutes et 30 secondes à jouer dans le temps additionnel, toujours ce score de 1 but partout, la circulation de balles des joueurs de l'OGC Nice. Finalement, eh bien, ce ballon vers l'avant d'un joueur niçois qui ne trouvera personne. Mauvaise transmission donc de Jean-Clair Topdibo. Et finalement, les Niçois qui s'en sortent bien sur ce coup-là, qui vont récupérer encore une fois le ballon.
On a l'impression même que les Niçois s'en sortent bien sur l'ensemble de ce match.
Hein. Oui, c'est ça. Ouais, tu as tout à fait raison. Ils s'en sortent bien. Voilà, après l'égalisation, ils auraient pu appuyer un petit peu plus sur le champignon, comme on dit, pour essayer de marquer ce deuxième but. Mais non, ils sont contentés de ce but, de ce résultat nul. Et bon, peut-être que ils sont aussi fatigués, hein, de la préparation, des matchs amicaux. Mais bon, c'est un prétendant quand même à quelque chose en fin d'année. Et aujourd'hui, ils nous ont quand même déçus. Enfin, pour moi, ils m'ont déçu.
Paul Lafitte, oui, au stadium pour les dernières minutes.
Pour les dernières minutes, la dernière minute 30 dans le temps additionnel. On rappelle le score, un but partout, avec des Niçois qui vont peut-être tenter dans un rush final d'aller s'imposer. Le centre en deux temps contré, encore une fois, de Jordan Lotomba. Mais les Niçois qui conservent ce ballon avec Ramsey, l'auteur de l'égalisation pour Bilal Brahimi. Brahimi et qui va peut-être trouver de l'espace avec un contrôle orienté dans le poitrine de Ili, le joueur roumain qui se couche dans la surface de réparation face à deux Toulousains pris dans l'étau. Mais il s'en sort encore une fois, Ili. Peut-être le centre à venir au deuxième poteau de Bilal Brahimi. Finalement, le ballon, encore une fois, récupéré par les Niçois au deuxième poteau. La tête croisée. Oh, et la sortie de Maxime Dupé. Et finalement, en deux temps, le Toulousain qui s'en sort. Oh, l'occasion en or pour l'OGC Nice. Véritable miracle pour Maxime Dupé, pour les joueurs du TFC. Eh bien, Nice a été à deux doigts dans le temps additionnel d'inscrire un deuxième but et de s'imposer. Il y aura encore quelques secondes à jouer. Manu, très très belle occasion. Encore une fois, venu du côté droit avec Bilal Brahimi.
Ah ouais, une superbe tête et puis un superbe arrêt, et là il a un réflexe extraordinaire parce que il voit le ballon qui part un peu plus loin et là d'un seul coup il est juste à côté de lui, donc un réflexe magnifique. Et voilà, c'est un peu dommage que les Niçois se réveillent en fin de match après ce but qui égalisateur. Les Niçois ont essayé un peu plus, mais voilà, ils auraient pu appuyer un peu plus sur leur action et surtout provoquer davantage, parce que Brahimi a fait énormément de bien. Et
attention à cette action avec Brahimi, encore peut-être dans la surface de réparation, non, finalement contré par un défenseur du TFC les dernières secondes, cette fois-ci avec Branko van den Bomen qui lève la tête et qui trouve Rhys Ilay qui en deux temps va trouver avec le rebond un petit peu chanceux. Non, finalement ce sont les Niçois qui récupèrent le ballon milieu de terrain. C'est du Oura football avec peut-être un caviar délivré dans quelques instants pour Rhys Ilay, finalement un joueur toulousain inquiète au sol. Et finalement, le coup de sifflet final, c'est terminé messieurs, avec ce match nul, un but partout entre Toulouse et Nice. L'ouverture du score à la 20e de Dalinga et l'égalisation d'Aaron Ramsey à la 78e. Donc match nul entre les deux formations.
Merci beaucoup Paul Lafitte de nous avoir fait vivre cette rencontre. Merci Manu d'avoir été avec nous pour décrypter ce match-là. On a juste le temps de rejoindre rapidement Clément Brossard du côté de Lille pour Lille-Auxerre qui va débuter dans 8 minutes à présent. Salut Clément, pourquoi il faut suivre ton match et pas celui des autres?
Salut Timothée, salut à toutes et à tous. Il faut suivre ce match parce que c'est le retour avant tout de Ligue 1 dans l'élite de l'AJ Auxerre, 10 ans après sa dernière apparition au plus haut niveau du football français sur la pelouse d'un Lille qui commence avec une page blanche, un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs aussi, avec un attaquant Mohamed Bayo qui sera à scruter. Comment il va s'entendre avec notamment Jonathan David, lui qui quitte Clermont pour la toute première fois. Il va arriver en terre lilloise conquise ou presque, parce qu'il a les supporters avec lui. J'ai vu beaucoup de maillots flottants bloqué Mohamed Bayo à l'entrée de cette Décathlon Arena au stade Pierre-Mauroy. Nouveau naming de stade également. 32 000 spectateurs attendus pour ce rendez-vous. Et il y a 300 spectateurs, 300 supporters bourguignons qui ont fait le déplacement pour vivre ce premier match de Ligue 1 de la GOCR et des hommes de Jean-Marc Furlan.
Merci beaucoup Clément. On te retrouve aux commentaires de ce match entre Lille et la GIA très rapidement au Paris.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Salut Olivier. Salut Timothée, salut à tous. Je vous donne les paris, les cotes sèches d'abord de ce Lille Auxerre. 1,70 la victoire du LOSC, 3,95 le nul, 5,10 le succès auxerrois. C'est une première journée, il peut tout se passer entre deux équipes qui cherchent à pratiquer un beau football. Je vous propose donc Lille qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,10.
Merci beaucoup.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Toute cette première journée de Ligue 1, c'est sur RMC. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Paolorsi pour le multiplex. Et on se retrouve à 17h.
RMC.
Intégral Sport.